Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a pris 5 mois de pause sans vous avertir. Aujourd'hui, je n'ai pas Paul avec moi, c'est juste moi, Stan, de marketingmania.fr, évidemment. Et on a un épisode un peu spécial aujourd'hui. Vous le savez, Nomade Digital a été absent pendant plusieurs mois. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages pour nous demander ce qui nous arrivait. Vous inquiétez pas, on va très bien, on est en pleine forme. On vous expliquera pas dans cet épisode pourquoi on a été absent, mais on vous expliquera dans le prochain épisode, qui sera l'épisode 50 et qui sera le dernier épisode de Nomade Digital. On expliquera dans l'épisode 50 le pourquoi, du comment, de pourquoi on a disparu, pourquoi on est revenu, et on vous expliquera pourquoi l'émission se termine. L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent. L'épisode d'aujourd'hui, il n'y a pas Paul, il y a juste moi et quelqu'un qui s'appelle Gilles. Gilles, c'est un homme de l'ombre du podcast Nomade Digital. C'est notre ingé son qui a travaillé avec nous sur le podcast et qui a une expérience totalement hallucinante en Thaïlande, d'habiter dans un endroit où personne n'a jamais été, où il nous explique que ses voisins n'ont pas l'eau courante. Et lui, il travaille en tant effectivement que freelance, en tant qu'ingé son, depuis cet endroit totalement paumé en Thaïlande. Et on s'est dit que c'était impensable de terminer Nomade Digital sans avoir un épisode avec Gilles. Et donc, on l'a invité dans l'émission et c'est l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, c'est moi et Gilles et je discutais un peu avec lui de son expérience, de sa vie, de comment il a débarqué en Thaïlande, de comment et pourquoi il vit là-bas et de à quoi ça ressemble vraiment d'habiter au fin fond de la Thaïlande, dans un endroit que je ne vais même pas essayer de reprononcer. Il vous le dira au début de l'émission comment ça s'appelle. Sur ce, je ne divague pas plus. Je vous laisse écouter cet épisode qui est déjà assez long, mais assez surprenant dans tout son contenu. Et puis, je vous retrouverai très brièvement en fin d'émission. Et puis, bien sûr, dans le prochain épisode de Nomade Digital, qui sera l'épisode 50. Salut Gilles et bienvenue sur le podcast Nomade Digital.
Merci Stan, salut.
Pour commencer, ça serait intéressant qu'on explique un petit peu ton lien avec le podcast, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, Nomade Digital pourrait pas exister sans toi. Est-ce que tu te souviens à quel moment, grosso modo, on a commencé à bosser ensemble?
Déjà, merci, mais bon, enfin, je pense que moi, c'est vous qui faites le gros du boulot, hein. Moi, je passe juste le coup de peinture final, on va dire. Mais tu sais que je me doutais que tu allais me poser la question et j'ai tâché de retrouver la date dans ma tête et j'y suis pas vraiment parvenu. Par contre, je me rappelle très bien sur quoi c'était. Et c'était donc sur ton podcast sur la séduction, qui par ailleurs était le premier podcast sur lequel j'ai travaillé, car je te dois ça. C'est toi en fait qui m'a amené dans le monde du podcast. Je pense que c'était il y a 2 ans peut-être, quelque chose comme ça.
Il me semble assez bien me souvenir qu'à l'époque, je vivais à Barcelone, donc ça devait être effectivement, il y a 2 ans, quand on a commencé à travailler sur Séduction Academy. Par la suite, on a travaillé ensemble, du coup, sur le podcast Marketing Mania, où tu as été là, pour le coup, dès le début. Et bien sûr, Nomade Digital, sur lequel on a travaillé pas mal ensemble. C'est même toi, d'ailleurs, qui a composé, il me semble, la musique du générique pour Nomade Digital.
C'est ça, la musique du générique et les jingles, quand on pense à les mettre.
Voilà, donc on peut mentionner, je pense, sur ce point-là, pour l'éditeur, que normalement c'est moi qui suis censé lancer les jingles ou au moins faire une pause à certains endroits pour introduire la musique. Et il m'arrive parfois d'enchaîner trop vite et d'oublier de faire la pause nécessaire pour ajouter les jingles. Donc la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu podcast, mais surtout pour parler Thaïlande. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu habites et à quoi ça ressemble?
Alors, moi, j'habite dans une localité qui s'appelle Prathan Don Rang, qui se trouve à 35 km de Kanchanaburi et une centaine de kilomètres de Bangkok. En France, on appellerait ça un hameau. On doit être à peu près, 100-150 habitations à peu près. Donc, c'est la Thaïlande, on va dire.
La Thaïlande des gens qui se lèvent tôt.
Oui, c'est ça, c'est la Thaïlande des gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt et qui sont sympas. Et qui sont pas spécialement, voire même pas du tout habitués à voir en fait des gens autres que des Thaïs.
Donc des gens qui sont non thaïlandais dans ton hameau, il y en a combien ?
Dans mon hameau, il n'y en a pas. Hein.
Donc c'est juste toi ?
Ouais, ouais, ouais.
Du coup, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ?
Donc moi, ça fait depuis donc que je ne suis pas rentré en France depuis 2011.
Donc ça fait à peu près 6 ans. Ouais. Du coup, c'est quoi ton niveau de thaï, la langue ?
Alors moi, j'ai un thaï assez spécial. Il est pas très académique. Il est broken, comme diraient les Anglais. Et il est très... En fait, il est assez choquant pour les autres thaïs, pour les thaïs citadins, on va dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai appris avec... forcément avec les gens d'ici, parce que les gens d'ici... sortis de ma compagne, en fait, personne ne parle anglais. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que... Enfin, en gros, j'avais le choix de soit je parlais à personne ou soit je m'y mettais. Et il se trouve que donc, voilà, j'ai appris avec les gens d'ici. Et un peu plus tard, j'ai été... Peut-être, ça devait être en... Oui, c'est ça, en 2013. De 2013 à 2015, j'ai été à l'école. Et en fait, l'enseignante, voilà, qui donc là à l'école à Bangkok, était tout simplement, elle était horrifiée en fait par ma manière de parler, parce qu'en fait, je parle un thaï très ordurier en fait, parce que les gens d'ici parlent comme ça.
Tu veux dire, il y a beaucoup de jurons ?
Il y a beaucoup de
jurons, de gros mots ?
Ouais, je parle un peu. Ouais, je pense que voilà, je parle thaï un petit peu comme tu vois les titis parisiens pouvaient parler dans les années 60, quoi.
Ouais, je pense un petit peu à la façon dont mon arrière-grand-mère, qui était immigrée polonaise, quand on m'explique la façon dont elle parlait, ça me fait penser un peu à ça. Peut-être des gens que tu croises plus tant que ça en France, ça s'est pas mal unifié sur la langue. Je pense que la question que pas mal de gens vont se poser à ce moment-là, c'est comment t'es arrivé là. Juste avant de passer sur cette question-là, je voudrais que tu nous décrives un peu, donc... T'as vraiment l'air de vivre dans quelque chose qui est très éloigné. Il faut dire que ce soit Paul ou moi ou la plupart des gens qui nous écoutent ou tout simplement la plupart des gens qui vont être nomades digitaux ou tout simplement des expats. Quand tu vas en Thaïlande, tu vas aller dans un de trois endroits. Tu vas aller à Bangkok, à Chiang Mai ou quelque part au bord de la mer. Et donc du coup, c'est un peu cette image-là qu'on va avoir de la Thaïlande dans notre cerveau. Est-ce que tu peux nous décrire, donc imaginons que la personne qui nous écoute débarque dans l'endroit où toi tu habites. À quoi est-ce que ça ressemble visuellement ? Qu'est-ce que tu vois ? À quoi ressemblent les routes, les maisons ?
Alors, les maisons autour de moi, j'aime pas vraiment dire ça, mais pourtant, c'est... moi, je le vois plus vraiment comme ça. Mais ouais, ça ressemble à un bidonville. C'est-à-dire qu'il y a des maisons en dur un petit peu autour. Et sinon, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De maisons, enfin des maisons... Des habitations en tôle ondulée, des habitations faites avec des panneaux de plastique. La plupart de mes voisins n'ont pas l'eau courante. Tout le monde a par contre un fil. Hein. Tout le monde a tiré un fil de la ligne quand même. Donc chacun a une ampoule chez lui malgré tout. Et au niveau de la route, on la voit pas beaucoup la route parce qu'il y a pas mal d'animaux en liberté, notamment là, des espèces de vaches qu'ils ont là qui ressemblent à des zébus et qui dégueulassent tout partout. On est les pieds dans la merde, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Faut dire les choses telles qu'elles sont. On vit les pieds dans la merde. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà. Et sinon, je tiens à dire que depuis l'accession du général, donc c'est maintenant 3 ou 4 ans, ils nous ont mis l'éclairage public. Voilà. Donc on n'est pas non plus, tu vois, les plus mal lotis, parce qu'avant on n'avait pas. Donc, à part dès 6 heures du soir, on était dans le noir complet.
J'ai eu une expérience comme ça récemment au Vietnam, d'aller un peu dans la cambrousse et de me retrouver sur une route sans aucun éclairage. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est assez étonnante parce que quand tu te trimbales en Europe ou dans les villes ici au Vietnam, Ho Chi Minh par exemple, il est rarissime que tu te retrouves dans l'obscurité totale, quoi qu'il arrive, sauf si il y a une coupure d'électricité ou quelque chose comme ça, ce qui arrive quand même à Ho Chi Minh. Mais c'est vrai que tu vis dans un endroit où tu sors de chez toi le soir et c'est la nuit totale, c'est quelque chose qui est assez, assez étonnant. Du coup, je pense que la question que je voudrais te poser, parce que je pense que c'est un peu une question débile, mais essentielle pour tout nomade digital, c'est du coup, tu sembles quand même avoir une bonne connexion Internet.
Ouais. En fait, ma connexion Internet actuelle, elle est bien meilleure que celle que j'avais en France avant de partir.
D'accord.
Et par contre, j'ai demandé pour la fibre il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, ils m'ont ri au nez. Voilà.
Donc du coup, je pense que la grande question sur laquelle il fallait qu'on arrive, mais je voulais qu'on pose bien le décor avant d'en arriver là, c'est comment est-ce que tu as atterri là ? Parce que quand tu imagines quelqu'un qui va partir de France pour aller s'installer en Thaïlande, tu te dis, il va probablement arriver dans un grand centre de population ou quelque chose assez accessible dont tu as déjà entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment est-ce que tu as découvert cet endroit et comment est-ce que tu as décidé de te fixer là où tu es aujourd'hui ?
Ouais, alors bien entendu, oui.
D'abord, je pense qu'en fait, ma question est un peu à l'inverse. Je pense que c'est plus judicieux pour moi de commencer par te demander, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a poussé à partir de France et à te diriger vers la Thaïlande pour commencer ?
Alors, en fait, mon premier voyage en Thaïlande date de 2009. Ça s'est fait sur un coup de tête, je me rappelle. Donc, j'étais avec un pote et on avait un peu bu. Et je ne sais plus si c'est moi ou mon pote, bref, il faudrait quand même qu'on prenne des vacances, qu'on aille se la couler douce. Et, ouais, on n'a qu'à aller en Thaïlande. 3 jours après, on avait pris les billets. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, ça a été ma première expérience. Et là, bien sûr, comme tu dis, c'est-à-dire que là, j'ai été dans les grands centres, quoi, hein, les endroits touristiques et ainsi de suite.
Donc, t'as été à quoi, à Phuket et compagnie?
Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça a été le parcours, le parcours touristique classique, quoi. Et voilà, puis ça m'a bien plu. Et je crois que ça a été pas plus de 6 mois après. Voilà, j'y suis retourné tout seul pour voir le truc autrement, c'est-à-dire moins le truc, la plage, les boîtes, la bière, machin. Ouais, c'était sympa aussi, mais j'ai eu envie de creuser un peu plus, parce que malgré le fait que j'étais au cours du premier voyage, on était dans les endroits touristique, et c'est pas là où en fait on fait les rencontres les plus intéressantes. C'est la vérité. On est face à des gens qui travaillent, qui sont là pour travailler, et on est un petit peu la matière sur laquelle ils travaillent. C'est la règle du jeu. C'est comme ça. Et puis moi ça me va très bien. Mais je les ai trouvés sympathiques quand même malgré tout. Et voilà, j'ai eu envie de creuser un peu. Et voilà, et là je suis parti, je me suis fait le nord, là je suis allé en Nissan notamment, là Konken ou Dontani et ainsi de suite. Là j'ai vraiment un petit peu, j'ai pas été déçu, quoi. Je suis vraiment j'ai trouvé ces gens là sympas, vraiment. Enfin, je me suis senti bien, tout simplement.
Et du coup, à quel moment est-ce que t'as eu le déclic ? Parce que je pense que pas mal de gens vont en Thaïlande et trouvent ça cool. À partir de quel moment est-ce que toi, t'as eu le déclic que tu voulais t'installer là-bas ?
Alors, le déclic, il s'est fait assez simplement. Je pense que c'est assez souvent la même chose. C'est que j'ai rencontré une fille avec qui ça s'est bien passé. J'en ai rencontré d'autres avec qui ça s'est beaucoup moins bien passé. Et donc, de là, en fait... J'ai commencé à avoir en fait des raisons plus impératives, on va dire, donc d'y retourner. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à y passer presque autant de temps que ce que je passais finalement en France. Et les départs étant de plus en plus difficiles à chaque fois, il y a un moment où j'ai décidé que je ne voulais plus repartir, tout simplement, quoi. Et donc c'est cette personne avec qui je suis toujours.
Et donc j'en déduis, tu me corrigeras si j'ai tort, que c'est comme ça du coup que t'es arrivé dans l'endroit où t'es aujourd'hui?
Exactement. Voilà, c'est ça. C'est donc ma compagne actuelle, donc qui est donc voilà, c'est cette personne là qui m'a fait donc assidûment revenir en Thaïlande. Donc voilà, et elle est native donc de Prattan. Et voilà, et un jour donc elle m'y a. À l'époque, on était donc elle travaillait sur Bangkok. Et donc ça se passait, voilà, donc en gros notre relation se passait à Bangkok. Et voilà, et un jour donc on a été à Patan. De là, au début j'étais quand même choqué parce que en fait si personne ne t'y amène, tu n'y vas jamais en fait dans ces endroits-là, quoi. C'est parce que tu serais pas mal. Le pire, c'est que tu serais même pas mal accueilli, hein. Ce qui est un paradoxe d'ailleurs, parce que autant, par exemple, si tu viens de 10 000 km, ça va, t'es pas mal accueilli. Mais bon, après ça se passe entre jeunes. Mais par exemple, les jeunes, tu vois, des alentours ne peuvent pas venir ici.
Pour quelle raison?
Oh, ils se font parce que pour des raisons de comment ça s'appelle. Pour des raisons que ça va se terminer en maltraitance physique.
Mais ils ont des rivalités qui sont basées sur quoi? C'est juste des questions de territoire? C'est des questions qui s'ennuient et donc qui se tabassent? Comment tu justifies ça?
Oui, c'est des trucs de territorialité que je ne saurais pas vraiment expliquer. Et j'ai été assez surpris, hein, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert. Tu vois, j'habitais déjà là depuis peut-être... Parce que c'était justement, c'était en face du shop de mon pote là qui a un internet shop, et donc il y avait une foule et ça se foutait sur la gueule. Bon, moi je me suis pas mêlé, hein. Et un peu plus tard, donc voilà, j'ai été voir mon pote, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, et il me dit ah non, bah ça, les jeunes là ils sont venus, c'est des jeunes de machin qui sont venus, hein, ils peuvent pas venir ici. Bon, mais à partir de là, il y a aussi bon, là, c'est entre jeunes, hein, donc bon, enfin, déjà, ça ne me regarde pas trop. Mais d'une manière générale, il y a quand même quelques règles à respecter, à savoir, faut pas chercher à tout savoir, faut pas chercher à tout comprendre. À savoir que, voilà, il y a des choses qui te concernent, il y a des choses qui te concernent pas. Faut pas foutre son nez là où on n'est pas, entre guillemets, habilité à le faire. Voilà, c'est une question de respect.
Du coup, en venant de Bangkok, je suppose que le contraste est quand même assez violent. C'était quoi ta première impression?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'était la merde par terre. Et bon, c'était de nuit, hein. Donc moi, j'ai vu que la merde par terre. Donc après, j'ai pas trop vu. Donc on est descendu du taxi. Bon, ok, très très bien. Mais après, ça a été donc au réveil, hein. Là où il faisait jour, j'ai dit, oh la vache. Ah ouais, quand même. Et j'avais vraiment... Tiens, putain, là, j'ai voyagé quand même, quoi. Et en fait, ça faisait déjà quand même un bout de temps, hein, plusieurs années que je venais dans le pays. J'avais pas vu ça, quoi. J'avais pas conscience de... Ouais, j'avais pas conscience qu'il y avait des gens, en fait, qui avaient ce mode de vie-là, qui avaient... voilà, qui vivaient... Mais ça m'a... Je le vois plus comme ça du tout, mais vraiment ça m'a paru vraiment comme un état de ouais, enfin une précarité, enfin c'était à la limite attristant, quoi. Et ce qui a en fait et ce qui est vraiment une très mauvaise perception.
Est-ce que tu peux du coup m'expliquer en quoi est-ce que ta perception a changé, qu'est-ce qui a évolué, quels sont les moments qui ont fait la différence?
Alors en fait, il y a eu une rencontre. Un point clé qui m'a fait quand même pas mal réfléchir. J'ai croisé un gars du village qui doit avoir à peu près une cinquantaine d'années. Il était assis pas loin, et donc voilà, ma compagne le connaissait. Enfin, forcément, ils sont tous un peu de la même famille, hein. Ils sont tous cousins. Enfin, c'est un peu, faut voir ça comme un camp de manouche, un peu où tout le monde est, enfin, c'est en gros, c'est voilà, tout le monde a des liens de parenté. Donc voilà, et ce gars-là, franchement, C'est avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est une super personne. Il avait quand même sacrément une sale gueule, costaud, le, tu vois, tout piqué de partout, dents cassées devant. Enfin, mais voilà, ouais. J'ai dit, c'est lui. Il a la tête à être le patron un peu quand même ici. Et il se trouve que donc voilà, on discute un petit peu. Enfin, moi, je discute. Je parlais pas encore à l'époque. Et ce gars-là, à un moment, il s'est levé. Et je me suis rendu compte, putain la vache, il pouvait à peine marcher, il boitait sacrément. Je me suis dit, ah, tiens, mais... Bref. Et il a ramassé, quoi. Bon, un petit peu plus tard, j'ai appris que ce gars-là, en fait, donc à l'époque, oui, c'était le gars qui tenait, en fait, comment ça s'appelle, la maison close qu'il y avait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en Thaïlande, jusqu'à ce qu'il y a... Bah, il y a toujours hein, la prostitution, ça aussi, tiens. Enfin, bref. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il n'y a pas si longtemps, il y avait des maisons closes un peu partout. Les maisons, enfin, en gros, la prostitution, et c'est toujours le cas, elle n'est absolument pas exclusive dans les endroits touristiques, elle n'est pas réservée aux Occidentaux. Non, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui est aussi présent partout dans le pays. Donc voilà. Et donc j'en apprends un peu plus sur ce gars-là. Donc ce gars-là, voilà, c'était donc le caïd local, machin, jusqu'à ce qu'il ait un malheureux accident. J'ai pas posé forcément de questions. Et maintenant, il se retrouve complètement impotent, pensionné à 500 bahts par mois. Alors 500 bahts par mois, pour les gens qui nous écoutent, ça fait à peu près 12 euros par mois. C'est la pension d'invalidité hein, en Thaïlande. Ça fait pas beaucoup, 12 euros par mois.
Et vis-à-vis du niveau de vie local, ça ressemble à quoi?
c'est très faible. Ici, on peut manger, un repas fait 20 bahts. Ici, on peut manger pour 20 bahts. Donc, avec 500 bahts, ça lui fait 25 repas. Bah, ça lui fait manger une fois par jour, 25 jours dans le mois. Ça fait pas beaucoup, hein, mais à côté, il va survivre, hein, tu meurs pas, hein. Mais là c'est plus la précarité, c'est la misère quand même un petit peu quoi.
Ouais.
Voilà, là où ce gars donc avant voilà, c'était le costaud, c'était le mec qu'on écoutait, enfin c'était on peut imaginer quoi, c'était le mec qui se tapait les gonzesses, c'était le patron quoi.
Ouais.
Et ben il se trouve que ce gars-là malgré tout, c'est le gars le plus poli, le plus jovial que j'ai jamais rencontré en fait ici. C'est-à-dire que le gars, malgré du fait qu'il soit passé en fait du statut de comment ça s'appelle de parrain local à comment ça s'appelle personne à mobilité réduite, enfin complètement assisté, son statut il a complètement dégringolé. Eh ben le gars en fait il a gardé une espèce de force, tu vois, une force mentale qui fait qu'en fait, pour lui, ça n'a pas vraiment l'air... Enfin, il n'est pas affecté, en fait, quoi. Il n'est pas affecté. Je ne sais pas si tu peux voir un petit peu, voilà comment...
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu as une interprétation de... Alors, je vais faire un parallèle à la con, hein, qui n'est pas forcément justifié, mais je pense que avec Paul, un des thèmes qui revient souvent dans les podcasts, c'est la question du stoïcisme. Et le stoïcisme, c'est aussi cette interrogation de comment tu fais face à des revers de fortune dans ta vie ou justement à une perte de statut ou à une perte de ce que tu peux avoir accompli ou ce à quoi tu peux être attaché. Et du coup, c'est une histoire qui a une fascination particulière pour moi. Est-ce que toi, tu as une explication? Est-ce que tu comprends comment ce mec réfléchit? Est-ce que c'est dû à la culture? Est-ce que c'est dû à l'individu?
Alors, en fait... On va dire que le stoïcisme, même s'ils appellent pas ça comme ça, en fait, ils sont faits de ça. Les gens d'ici sont faits de ça.
Tu veux dire via le bouddhisme?
Ouais. Ouais, via leur bouddhisme. Parce qu'en fait, les gens que tu vas trouver à Bangkok, ou tu vois, ou je sais pas, à Chiang Mai, enfin, en ville, non, ils sont pas comme ça. Ils sont comme nous, entre guillemets. Ils sont beaucoup plus comme nous. Mais par contre, dans les milieux reculés, on va dire, ils ont une force mentale qui est complètement hallucinante. Complètement hallucinante. C'est-à-dire que il se laisse absolument pas aller à la déprime, enfin, ou, bah, tout ce qui est négatif, tout ce qui est, non, ça leur vient absolument pas à l'idée, quoi. Et puis c'est pas le seul, hein, y en a d'autres, hein, parce qu'ici il faut savoir qu'en fait y a pas mal de gens qui ont eu la polio, des gens plus jeunes que moi, ce qui nous met un petit peu, ce qui peut donner un petit peu l'idée de voilà, enfin l'état sanitaire un peu qui est quand même pas terrible. Donc voilà, tu trouves ou non, je sais pas, des gars aveugles en fauteuil roulant, ils cumulent tout, hein, et les mecs, mais tout le temps ils sont jovial, morts de rire, intégrés dans le truc. C'est que c'est en gros voilà, enfin chez nous c'est un peu triste à dire, hein, mais bon, chez nous les infirmes, en fait on a construit des lieux spéciaux pour les mettre dedans, donc forcément bon, ça aide pas, mais bon, toujours est-il que ici ces gens-là ils font complètement avec, quoi. Ils font complètement avec, et c'est ça qui m'a fasciné. C'est vraiment ça qui m'a fasciné et là-dessus, j'ai ma compagne qui est tombée enceinte, et de notre fille, je me suis dit, en fait, le plus beau cadeau que je puisse lui faire, parce qu'en fait, pas le cadeau, en fait, le plus beau projet de vie que je puisse lui offrir, c'est de devenir comme ces gens-là. Ce qui peut paraître complètement fou, hein, dans un esprit occidental, mais tu te rends compte, hein, elle va grandir les pieds dans la merde, ah ouais, certes, mais par contre, elle finira pas sous l'exomile, quoi. Elle fera face, elle a toutes les chances d'être heureuse en grandissant ici. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ma conclusion, c'est que ce qui m'a fasciné, en fait...
Elle a quel âge, ta fille, aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle a 4 ans. C'est ça, elle a fait 4 ans au mois de septembre. Et donc voilà. Pour résumer, ce qui m'a vraiment fasciné, c'était que, en fait, les gens ici, voilà, ils étaient heureux. Ils étaient costauds dans leur tête et heureux. Chose que, voilà, enfin, on n'est pas spécialement habitué à voir, quoi, vers chez nous. Hein,
c'est quelque chose que tu as eu la sensation d'avoir absorbé pour toi-même?
Un petit peu, mais juste un petit peu, parce que voilà, je resterai occidental. J'ai été élevé en occidental. Le mal est fait, entre guillemets. En fait, après voilà, ça nous amènerait trop loin, parce que après je vais pas vous raconter en fait comment les enfants sont élevés ici, mais ça part de là. C'est-à-dire qu'en fait ici les enfants ne dorment pas seuls. Tu vois, les filles, enfin. Il y a toujours des gens pour s'en occuper. Enfin, l'enfant, c'est un peu l'enfant du village. Il y a tout ça. Donc, il y a tout un entourage, en fait, social, qui fait que, et tu vois, l'amour de la famille élargie, ainsi de suite. C'est tout ça, hein, qui fait des gens costauds, quoi. Et qui fait des gens, voilà, heureux. Enfin, où c'est qu'il n'y a pas, la confrontation au stress, elle n'arrive pas comme chez nous, quoi.
Et t'as suggéré tout à l'heure que, t'as suggéré tout à l'heure que les Thaïlandais qui vivent dans les grandes villes n'ont pas cette même philosophie. Pour toi, le facteur déterminant, ça serait quoi? Ça serait le niveau de confort matériel, ou à partir du moment où tu atteins un certain niveau de confort et où tu es protégé de certaines réalités ou de certaines difficultés, tout d'un coup, tu n'as plus l'opportunité de développer cette résilience, ou est-ce que ça serait autre chose pour toi?
C'est vraiment ça, hein, c'est le mode de vie. Le mode de vie, tout simplement, oui. Le mode de vie, c'est-à-dire...
Peut-être une autre façon de poser la question, ça serait de dire, est-ce que tu penses qu'il est possible pour des gens de combiner ce mode de vie avec plus d'opportunités matérielles, ou est-ce que, tu vois, c'est quelque chose qui est mutuellement exclusif? Et à mesure, mettons, qu'une ville comme Bangkok ou Chiang Mai, qui bénéficie quand même pas mal du tourisme, va monter en niveau de vie et en opportunités, est-ce que nécessairement une société va se déplacer vers quelque chose de plus occidentalisé, avec des familles qui ont leur logement séparé, avec les enfants qui sont protégés? Moi, je me souviens, quand j'étais gamin encore en France, on avait des jeux dans les parcs où tu pouvais grimper et te casser un peu la figure. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Donc même depuis les années 90, sur les 20 dernières années, même encore là, on a monté dans pas mal de crans au niveau de la sécurité et au niveau, disons, du risque qui est tolérable pour un gosse. Et après, bon, après, c'est quelque chose que j'ai pas connu, mais quand mon père me raconte son enfance, les enfants avaient un groupe d'enfants qui allaient jouer dans les terrains vagues et se tabasser avec des épées en bois. Clairement, à mon époque, quand j'étais gosse, on nous laissait pas sortir dans la rue tout seul.
Ouais.
Et donc j'ai l'impression qu'au fil du temps, peut-être que les enfants sont de plus en plus protégés de ce point de vue-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre tout ça ?
Bien sûr. Complètement. Faut imaginer, en fait, là, j'y pense d'ailleurs, en fait. Des fois, je me figure, en fait, la vie d'un gosse dans une grande ville, tu vois, en France, aux États-Unis, ou tu vois, en Allemagne, ou n'importe où, en Occident. C'est quoi sa vie ? Parce qu'il peut pas sortir, en fait, quoi. Moi, je vois mes gosses. Si je les enferme 2 heures à la maison, ils me cassent tout, quoi. C'est la crise, c'est pas possible. Mes gosses, ils partent. Ma gamine, moi, à 2 ans, elle était autonome. Tu vois, à 2 ans, hop, elle ouvrait la porte, elle allait faire sa vie, elle rentrait le soir. Ah, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. À partir du moment où elle a pu commencer, pas qu'elle a marché, hein, mais à partir du moment où elle a commencé à marcher et parler, ouais, c'est bon, c'était OK. Et il n'y a aucun souci. S'il n'y a pas de voiture, il y a tout le temps, en fait, il y a tout le temps des gens dehors et qui veilleront comme ça sur les petits. Et donc, on les laisse, en fait, vivre leur vie d'enfant. Et donc, les gosses, ils sont dehors, dehors toute la journée, quoi. Et parce que, faut quand même le voir, quoi. Enfin, c'est un enfer pour tout un tas de gosses, quoi, de grandir comme ça, enfermé dans 50 mètres carrés et juste attendre, en fait, le samedi après-midi que papa et maman, ils travaillent pas pour l'amener au parc, quoi. Putain, ça fait, tu vois, je veux dire, ça fait pas beaucoup d'occasion de prendre l'air, quoi. Et, voilà, il y a cet aspect-là et c'est l'aspect entourage. Et comme je t'ai dit, ici, un autre aspect important, c'est que les enfants, ici, voilà, on le met pas dans une chambre tout seul, dans le noir, et puis quand il chiale, on vient voir ce qui se passe, quoi. Non. Et en fait, mes enfants, ils chialent pas ici, quoi. Si, pour un biberon, un machin. Mais il n'y a pas de crise, il n'y a pas de, tu vois, alors que des fois, bon, t'as des parents pour qui c'est une tannée, quoi, tu vois, parce que les gosses, en fait, ils doivent angoisser tout seuls de leur petit pieu, tu vois, et de leur petite piole, comme ça, un espèce de, voilà, c'est une confrontation au stress qui est vachement tôt, quand même, quoi. Et ça, ça laisse des traces. Et je crois qu'en fait, notre parcours à nous, en fait, il est jalonné de tout un tas de choses comme ça. Tout un tas de choses comme ça, qui sont anxiogènes, quoi. Enfin, et ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas, quoi. Même l'école, ça n'a absolument rien à voir, quoi. L'école, c'est dans un temple, l'école, avec les moines. Et c'est absolument pas foutu pareil, tu vois. Déjà, ils sont trois. Donc, Marisa, ma petite, elle a été à l'école. 3 enseignants pour les accueillir, une vingtaine. Et très doux, très pédagogue. À 3, c'est plus facile, hein. Chez nous, c'est pas facile, quoi. T'as une enseignante qui doit s'occuper de 25 gamins. Ben, c'est la folie. Elle peut pas y arriver. Ici, voilà, il y a vraiment les moyens qui ont été faits, en fait. Et ça donne des résultats. Ça donne vraiment des très bons résultats, quoi, je trouve. À savoir une société qui est vraiment équilibrée. Voilà, c'est ce qui m'a poussé, en fait, à définitivement poser mes valises ici, quoi. À savoir que je pense que c'est vraiment un bon début de carrière, quoi. C'est une bonne formation, je pense, pour les enfants. Après, les enfants, ils font ce qu'ils veulent, hein, plus tard. Mais je pense que c'est une bonne formation. Et ça n'a pas de prix, quoi.
Je t'ai pas mal laissé parler parce que je trouve ça vraiment très... très fascinant comme idée, très loin de ce avec quoi j'ai pu avoir une expérience directe. La façon dont je voudrais pouvoir conclure cette partie sur la Thaïlande, la première partie de ce podcast, ça serait de discuter de quelques anecdotes. Enfin, tu le sais très bien, je pense que les auditeurs qui nous écoutent depuis un moment le savent. Les anecdotes, c'est un peu une tradition dans le podcast Nomade Digital, généralement apporté avec un grand brio par Paul, il faut quand même le dire.
Oui, c'est ce que je veux dire, mais c'est pas facile d'être à la hauteur, hein, parce qu'il y a quand même, un spécialiste qui aurait vite fait à rendre un petit peu fade toutes les nôtres.
Ah, moi, j'ose plus, hein. Moi, j'ose plus. Je me sens naïf et après tout ce qu'il nous a raconté, je me sens naïf et tu sais, comme un petit novice qui te raconte ces histoires à la con. Ceci dit, t'as décidé de prendre une petite tentative pour nous avec une première anecdote et tu me l'as décrit et je suis assez intrigué comme étant une anecdote à la Paul.
Bon, à la Paul. Alors, en toute modestie, vraiment, faut pas.
Bien sûr.
Faut savoir.
Personne ne peut toucher le king.
Exactement, faut savoir rester à sa place. Alors, en fait, ça se passe. Ça devait être en 2012 à Phuket, lors de vacances, donc. Donc, on était parti en vacances, dans le sud. Et moi, tout content d'être à Phuket, parce que j'aime quelque chose que j'aime bien, qui me relaxe en fait, c'est quand je suis en fait en bord de mer comme ça, spécialement sous les tropiques, hein, parce que dans la rade de Brest, ça marche beaucoup moins bien. C'est de me prendre un masque et un tuba et d'aller visiter entre guillemets les fonds marins. Ouais, ces trucs, je peux y passer, surtout quand la mer est chaude. Voilà, je peux y passer des heures, c'est quelque chose, ça me relaxe, j'aime bien faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait, hein, comme on était à Phuket. Dès notre arrivée, je me suis rué donc dans une échoppe afin de pouvoir acheter de quoi m'équiper. Et on a fait quelques bornes et j'avais regardé un petit peu sur Internet, tu vois, quelques spots accessibles depuis la plage pour pouvoir faire ce qu'on appelle. Du snorkeling. Me voilà parti, arrivé sur place, je me jette dans l'eau, et je passe mon après-midi comme ça. Et à un moment, alors que j'étais forcément la tête sous l'eau, j'entends en fait une annonce dans des haut-parleurs, genre, tu vois, comment ça s'appelle, les haut-parleurs municipaux, tu vois, de mauvaise facture, et forcément c'était en thaï. Mais bon, de toute façon, quand j'avais la tête sous l'eau, même si ça avait été en anglais, pas forcément compris grand-chose. Et j'ai entendu, par contre, putain, c'est marrant, je dirais que j'ai entendu tsunami. Et du coup, j'ai sorti la tête de l'eau. Bon, et léopard, voilà, l'annonce était terminée. J'étais à peu près, j'étais à peu près à 200 mètres à peu près du rivage. Ce qui, ça paraît rien quand faut les faire à pied, mais à la nage, c'est un peu loin déjà. Enfin, au vu de ma condition physique. Et en fait, mon côté rationnel a vite repris le dessus, à savoir, c'est vraiment comment est-ce que t'es conditionné? T'es forcément, regarde, t'es à Phuket, il y a une annonce, t'as entendu tsunami, c'est sûr. T'es complètement conditionné. Ils ont jamais dit tsunami, c'est juste toi, en fait, qui dans ta tête, en fait, Tu vois l'idée, ouais. À savoir comment est-ce qu'on on peut être conditionné, en fait.
Ouais, essentiellement, t'as entendu des mots qui voulaient rien dire pour toi et ton cerveau les a réarrangés dans un schéma, dans un pattern qui avait une signification par rapport à la situation.
Exactement. Et pouvait avoir que celle-là, parce qu'en fait, on n'a que ça comme référence.
Ouais, tout à fait.
Tu vois, c'est-à-dire qu'on a à peu près Phuket, tsunami. Bon, voilà, forcément. Donc bon, allez, tombe pas dans ces pièges là, t'es au-dessus de ça, t'es capable de garder le contrôle, et je continue donc et je replonge et je continue, je continue mes explorations pendant plusieurs minutes sans vraiment me soucier. Et à un moment, j'ai quand même, réflexe ou je ne sais quoi, j'ai quand même regardé le rivage plusieurs minutes après, et là j'ai vu qu'en fait il y avait absolument plus personne sur la plage. Il y avait des voitures de flics, enfin il y avait tout un bordel tout au fond derrière, et d'ailleurs que ma compagne, tout le monde était barré, il y avait plus une serviette, tout le monde avait dégagé. Et c'est là en fait que j'ai réalisé, que j'ai dit oh merde, ils avaient vraiment dû dire tsunami. Et donc, en fait, là, j'ai eu peur. Je t'assure que donc les 200 mètres, je les ai vraiment nagés vite, à savoir sans me retourner, hein, parce que j'ai dit bon, bah, écoute, si t'es happé, ben, tu le verras pas venir, hein, va pas t'ajouter le stress en plus de voir la. Ah, j'étais préparé là pour le coup, tu vois, j'y croyais vraiment. Et bon, il se trouve que je suis arrivé jusqu'à la plage sans avoir été happé par le tsunami, accueilli donc par ma compagne qui me hurlait dessus et qui me traitait de tous les noms parce qu'elle comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais le seul débile qui était encore en train de nager alors que bref, il y avait une alerte au tsunami et tout le monde était barré. Et voilà, il se trouve que c'était vraiment une alerte au tsunami, mais parce qu'il y avait eu un tremblement de terre du côté de détroit de Malacca ou enfin dans ce coin là-bas. Et mais il se trouve que bon, ça n'avait pas généré de tsunami. Voilà, c'était ça. C'était ça que j'avais comme anecdote.
D'accord. Assez impressionnant. Et du coup, l'annonce, elle a jamais été faite en anglais. Ils la font en thaï et puis faut.
Ouais,
écouter,
bah, tout ça. Ouais, bah. Alors après,
j'imagine qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est qu'ils ont envoyé la police en fait sur la plage pour faire évacuer les gens.
Ouais.
Mais toi, comme t'étais déjà dans la mer, ils n'ont pas eu accès à toi en fait.
Non, puis ils sont pas venus me chercher. Hein. Ouais. c'est comme parce que plus personne n'était sur la plage. En fait, t'avais donc la mer, la plage, et en hauteur, t'avais la route quoi, et tout le monde était en hauteur, bien protégé quoi. Ah non, et puis il y avait et moi bien sûr, comment on s'appelle, c'est bien voilà, bien sûr de moi, à savoir autant moi je veux pas me laisser prendre, comment on s'appelle, avec ce conditionnement là. Bon, voilà, donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Bon, après, bon, faut le vivre parce que moi j'ai eu peur quand même, j'ai dit oh merde, ça fait quand même ça fait quand même bizarre. Parce que ouais, là, 200 mètres à nager, c'est long. C'est très long. C'est pas comme 200 mètres à courir.
Tu fais ton record sur le 200 mètres. Tu fais ton meilleur temps. Là, c'est bon. Tu peux...
Ah oui, c'est clair.
je peux assez bien imaginer le déclic de panique.
Ouais.
Moi, je suis terrifié de toute façon de l'eau. Donc, je pense que je prends la double peine, moi, là-dessus.
Non. Ouais, j'ai eu un côté panique quand même. Là. J'ai fait le con. J'ai fait, mais vraiment, voilà, au point de, comme je te dis, je me retourne pas, tant pis, ça me prend, quoi, mais bon, quand on est là, c'est que t'es pas bien, généralement, tu vois, quand t'oses même pas regarder derrière, c'est que tu te sens pas spécialement en bonne position, quoi.
Donc, tu continues aujourd'hui à faire du masque et tuba, du coup?
Après, plus tard, donc, je me rappelle, au cours d'un séjour aux Philippines, donc, j'ai voulu réitérer l'expérience et j'ai un stress. Pourtant, je pense pas au tsunami, mais j'ai un stress qui s'est installé. Tu vois, à savoir, je suis pas bien. Tu vois, comme quoi ça m'a un petit peu, tu vois, je te dirais, non, rien du tout, mais en fait, si. Tu vois, quand je suis dans l'eau, il y a un truc, je me mets même pas trop du bord, une espèce de stress, en fait. Tu vois, une espèce de truc, ça vient de là, hein. Tu sais, mais un peu mal digéré, tu sais pas trop, quoi. Et ouais, je crois que ça m'a un peu secoué, cette histoire. Enfin, un peu secoué. Elle m'a pas traumatisé non plus complètement, mais bon. C'est plus pareil, voilà. Depuis, c'est plus pareil.
Je peux assez bien voir que ton cerveau crée une association avec le danger et que ça revienne. Ça serait une version très soft d'un système de traumatisme où instinctivement t'essayes d'éviter une situation que t'as identifiée comme étant dangereuse.
Exactement, ouais. Et même si tu le concrétises pas formellement dans la pensée, tu vois, mais par contre t'as un ressort qui est là, qui fonctionne, et lui te laisse pas vraiment le choix, quoi. Lui, il t'envoie du stress, donc en gros il te pourrit la balade, donc t'insistes pas, quoi.
Je pense que c'est la même raison pour laquelle j'hésite toujours à aller chez le coiffeur. Encore aujourd'hui, j'ai une résistance particulière à aller chez le coiffeur. Je dois me forcer à y aller parce que quand j'étais enfant, je trouvais ça tellement désagréable d'aller chez le coiffeur. Alors qu'au final, aujourd'hui, pas vraiment. Il me reste aucun inconfort avec ça. Et j'ai une association dans mon cerveau. Et je me suis vraiment demandé dernièrement comment est-ce qu'on pouvait briser ces associations inconscientes, parce que celle-ci, pour le coup, n'a vraiment aucun sens. Autant le coup du tsunami, c'est vraiment à notre niveau, il y avait un vrai danger. Moi, j'ai ce truc-là bizarre, cette association, tu sais, entre deux choses qui n'ont rien à voir et qui se fait dans mon cerveau. Et qui se fait à chaque fois, je pense au coiffeur, je fais « Ah non, c'est l'enfer, j'ai pas envie d'y aller. »
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est les mêmes ressorts. C'est très dur, hein, je crois, de c'est... Je crois qu'il va falloir vivre avec. Ouais. Je crois qu'il va falloir vivre avec, parce qu'en fait...
Il va falloir vivre avec ce... On a chacun nos croix à porter.
Exactement.
T'as le problème du CV, moi j'ai le problème du coiffeur.
Ouais, qui est un petit peu... Qui est un peu plus conséquent. Enfin, à partir du moment où t'habites pas au bord de la mer, t'auras forcément plus souvent à aller chez le coiffeur. Et voilà.
Donc si vous regardez mes vidéos YouTube et que j'ai l'air d'être un peu d'avoir les cheveux un peu trop longs, j'ai l'air de jamais aller chez le coiffeur, c'est la raison.
Voilà, ça vient de là.
Voilà, vous savez, vous l'avez entendu essayer. J'avais noté que t'avais une deuxième anecdote sur la Thaïlande que tu m'as décrit comme étant assez révélatrice de la culture.
Ouais, alors ouais, là on est dans un truc. Si ton téclote était on va pas dire spectaculaire, mais un petit peu haletante. Celle-là, elle est beaucoup moins. Mais elle est intéressante parce qu'en fait, elle dévoile un petit peu ce qu'est la Thaïlande. Mais pas la Thaïlande... encore une fois, c'est pas la Thaïlande à Chiang Mai ou à Bangkok. C'est la Thaïlande là où c'est que les Thaïs qui vivent à la manière Thaï. C'était encore il y a quelques années. J'étais un petit peu court en argent et je m'étais fait envoyer donc un Western Union. Donc, et il se trouve qu'en fait, il y a juste une banque, hein, qui est pas très loin là, qui a 2 kilomètres, c'est la Banque des Cultivateurs de Riz.
Et ça va être comme ça.
Il se trouve, la Banque des Cultivateurs en tous les cas, ouais. Enfin, Crédit Agricole en fait quoi. Mais bon, c'est ouais. Pour le coup, mais il est vraiment agricole, quoi. J'ai un compte là, enfin, tu peux même pas avoir, il y a même pas de possibilité de carte bleue, tout ça. Enfin, c'est très rustique. Mais ils font des prêts, voilà, ils font des prêts aux agriculteurs. Et accessoirement, ils ont, comment ça s'appelle, un point de retrait Western Union. Donc voilà. Et il se trouve que cette banque-là ferme à 15h30. Et moi, n'ayant pu avoir en fait parce que pour un Western Union, voilà, on va passer les détails techniques, mais juste pour savoir que donc il faut un code pour pouvoir aller retirer l'argent. Et comme le code, il venait de France, avait le décalage horaire, ainsi de suite. Hein, c'est pas évident de l'avoir tôt en début d'après-midi. En gros, quand il est 15h quand il est 15h chez moi, il est 9h du matin en France. Donc voilà, les postes ouvrent à 9h, ainsi de suite. Bref, le plus tôt que j'ai pu l'avoir, donc, c'était 15h20. Et j'avais vraiment plus une thune. Donc, bon, ça urgeait pas mal. J'arrive à la banque. Bon, c'est bon, 10 minutes. Et on m'informe que la procédure, en fait, prend 30 minutes. Parce qu'ils doivent en référer à une autre agence qui, elle, est informatisée correctement, j'imagine. Pour pouvoir en fait valider, eux ils peuvent pas le faire quoi, ils sont pas, et voilà, eux ils peuvent pas le faire, ils sont pas équipés. Et donc ils me disent que ça va prendre une demi-heure. Et genre, putain, 15h20. Non, il y a pas de problème. Alors ils me font remplir les papiers, ils me demandent le code. Et asseyez-vous là, vous avez qu'à attendre. Et à 15h30 donc la banque a fermé, ils ont tiré les grilles. Il y a une dame qui est arrivée, qui a commencé à passer le balai. Et en fait, ils m'ont gardé avec eux jusqu'à 16h. Ils ont attendu avec moi.
À l'intérieur.
Ah ouais. Alors que j'étais avec la dame qui passait le balai. Et tu avais donc les 3 guichetières qui attendaient en fait la confirmation pour le Western Union. Et qui ont attendu avec moi donc jusqu'à 16h. Et à 16h, donc, je suis sorti avec tout le monde par la porte de service de côté. Et donc, je suis resté, en fait, avec la dame qui passait le balai et les 3 guichetières, comme ça, enfermés pendant 30 minutes. Et ça, sans la moindre irritation, sans la moindre impatience de leur part, quoi. C'était vraiment, il n'y avait aucun souci, il n'y a pas de souci. On va, vous allez avoir votre argent, il n'y a pas de problème. Et ça.
Ça, c'est.
Ah ouais, ça tape.
C'est
ça.
Inédit en France.
Oui, c'est complètement impensable en France, mais pour tout un tas de raisons. Déjà, le truc sécurité, t'imagines, on enferme comme ça. Non, c'est impensable. Et à côté de ça, et le côté, ah bah non, bah vous rigolez ou quoi, 15h30, mais vous plaisantez, c'est bon. Voilà, enfin le truc complètement impensable. Et moi j'étais super gêné, quoi. J'arrêtais pas de m'excuser, en gros. Et bon, et du coup, les filles, elles rigolaient, il est mignon. Et voilà, c'est juste en fait pour se figurer que, ben, il y a des gens qui fonctionnent vraiment, vraiment très, très, très différemment de nous, à savoir qu'il y a des gens pour qui ça ne pose absolument aucun problème de cramer 20 minutes de leur temps pour rendre service à quelqu'un, tout simplement. Chez nous, tu peux te gratter, hein, je veux dire, enfin, tu vois, c'est, ça n'a rien à voir. C'est un peu, après, dans la même idée, ici, je suis tombé 3 fois en panne d'essence. Le plus long que j'ai poussé, ça a dû être 1 minute maximum. Tout le temps, quelqu'un qui s'arrête. Ah, qu'est-ce qui se passe, machin? Ah, bah, écoute, il n'y a pas de souci. Je peux t'amener chercher de l'essence. Il y a même une fois, il y a carrément, enfin, c'était une vieille dame où ça avait été plus compliqué que ça parce qu'il avait, j'avais pas d'argent, ma carte était chez moi. La dame, elle m'a amené chez moi. Après, elle m'a amené à retirer de l'argent. Après, elle m'a amené à la station service pour mettre de l'essence. Elle m'a ramené au scout. Tu vois, ça a pris 1 heure, la dame. En plus, elle ramait, tu vois, elle roulait à 25. Mais super, quoi. Il n'y a pas eu de souci, quoi. C'est des choses. Alors que chez nous, t'es en panne d'essence avec ton scoot, avec ta moto, tu marches. Hein. Tu vois, et puis tu te débrouilles, quoi. Voilà. Et ici, en fait, non. Non, ici, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et c'est une somme de détails qui. Ça a son importance, hein, au-delà de l'anecdote, à savoir que quand tu vis dans ce monde-là, t'as du mal à le quitter après, quoi. Tu peux plus refaire machine arrière, en fait, quoi. Tu vois, c'est un monde quelque part où tout le monde est un peu privilégié, vois-tu? Tu vois, c'est en fait, tu pourrais te sentir privilégié, alors qu'en fait, non, t'es pas il le ferait pour tout le monde, quoi. Mais à savoir que, voilà, donc le mot privilégié, enfin, voilà, le mot privilège n'est pas le bon. Mais ça pourrait ressembler à ça, tu vois, à savoir.
Mais je vois l'idée. Donc, j'imagine que c'est évident pour pas mal de monde, mais tu verrais jamais revenir en France.
Ah non, 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 là, ce serait non, ce serait trop difficile.
Et est-ce que tu te verrais vivre dans un autre pays que la Thaïlande, mettons, d'autres pays asiatiques, ou est-ce que pour toi la Thaïlande c'est vraiment l'endroit qui te convient?
Je connais pas assez les autres pays, en fait. Un endroit qui m'a beaucoup plu, c'était les Philippines. Mais j'y suis pas resté assez longtemps, en fait, parce que c'est pas évident. Encore une fois, c'est vraiment pas évident de savoir, quoi. C'est quand tu vas comme ça en touriste, en fait, tu sais pas. T'en sais rien, quoi. Il faut du temps,
T'as une profondeur d'expérience avec la Thaïlande qui est totalement unique par rapport à ce qu'on peut avoir par ailleurs.
Voilà, qui m'a permis de découvrir, qui m'a permis de découvrir que c'était, en fait, la Thaïlande, c'était ça, quoi, tu vois, c'est fait de tout un tas de trucs comme ça, en fait, donc tu te retrouves dans un monde où, tu te retrouves dans un monde sans hostilité, en fait, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est un petit peu, par exemple, pour reprendre cette idée de, tu vois, quand t'es dans la panade, t'as plus une thune, en gros, là, il te faut absolument ton Western Union, parce qu'en gros, hein, ça craint, t'as une gamine à nourrir, t'as plus de thune. Quelque part, la personne qui va te refuser, dire, écoutez, revenez demain, ça arrangeait pas, on aurait bien aimé manger ce soir, ça va t'apparaître comme de l'hostilité, en fait. Vois-tu? Alors qu'en fait, c'est normal, mais on va le prendre comme ça, à savoir au moins minimum de l'adversité. Voilà, minimum de l'adversité, tu vois. Et donc la Thaïlande profonde, c'est un endroit où il y a très 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 peu d'adversité, vraiment très peu.
Je pense qu'on peut conclure là-dessus et en fait transitionner sur la deuxième partie de ce dont on voulait parler, qui est la partie sur le podcasting. Et je pense qu'une bonne façon de faire la transition, c'est de décrire un peu ton travail, ce que tu fais pour gagner ta vie, Soit tu peux expliquer de façon générale tes activités, soit ton travail par rapport au podcast Nomad Digital, si ça te permet de donner un exemple voilà, précis de, bah, du genre de compétences que toi tu as et de ton travail en règle générale.
Donc à la base, moi je suis ingénieur du son dans l'audiovisuel. Et vu que c'est un peu cramé en fait pour moi au niveau de enfin, au niveau de la langue, parce qu'il faut vraiment pour continuer mes activités, parce qu'à savoir que il y a pas mal de tu vois il y a pas mal de télé, il y a pas mal de production à Bangkok, mais faut avoir un taille parfait.
Non, c'est sûr que travailler dans un milieu audiovisuel quand tu vas être amené à monter ou à éditer des pistes sonores qui sont dans une certaine langue. Si t'as pas une familiarité parfaite avec la langue au point de comprendre comment fonctionne le rythme de la langue, les pauses, les ponctuations, etc.
Oui, voilà.
J'imagine que ça devient quelque chose qui est très rapidement impossible, sans parler de la communication au sein même du milieu professionnel. Moi, je connais quelques personnes qui avaient travaillé à Bangkok en agence de publicité, ce genre de choses, des entreprises internationales.
Il n'y a pas le temps.
Si tu n'as pas un taille parfait, tout d'un coup, tu es vraiment en difficulté dans un milieu professionnel où les choses
exactement,
vont rapidement.
Il n'y a pas le temps pour ça. Quoi.
On peut pas faire le visiteur et t'expliquer.
Ouais, ouais. C'est,
donc, je vois très bien.
Très bien résumé.
Donc du coup, la solution sur laquelle toi, tu es tombé, c'est de prendre les compétences que tu avais déjà développées sur la partie audio et d'en faire un job de
freelance.
Et d'en
faire un job de freelance, donc voilà, remote, quoi, enfin à distance. Donc, à mes débuts, je tapais un petit peu dans tout, on va dire, c'est-à-dire donc de l'édition de musique pour les jeux vidéo, avec aussi un petit peu de post-prod audiovisuel, un peu de tout, jusqu'à, en fait, et ça a commencé à notre rencontre, me diriger vers une spécialisation dans le podcast.
Je suppose que d'un point de vue, disons, la partie business, un des attraits qui peut être intéressant pour toi sur le travail sur un podcast, c'est l'aspect récurrent. C'est-à-dire que tout freelance se pose toujours la question de comment je vais trouver des nouveaux clients. Pour toi, tu peux imaginer qu'à partir du moment où tu travailles sur un certain nombre d'émissions qui ont une certaine régularité, tu vas avoir des gens qui vont revenir vers toi et qui vont créer une base de revenus qui peut être faite comme ça.
Exactement. Ça donne une stabilité financière qui est appréciable quand on a une famille à nourrir.
Ouais. Je pense qu'il peut être intéressant de mentionner la façon dont nous on est rentré en contact. On est rentré en contact, si mon souvenir est bon, via la plateforme qui s'appelait à l'époque Odesk.
Exact.
Qui s'appelle aujourd'hui Upwork.
Ouais.
Et quel est le pourcentage de tes clients qui viennent de ce type de plateforme?
Oh, je dirais 80% peut-être. Ouais.
Une majorité.
Une grosse majorité. Après, il y a d'autres clients, voilà. Donc après, le reste de la clientèle découle, voilà, de cette clientèle, mais c'est le principal, on va dire, c'est le principal fournisseur de clientèle, on va dire. Ouais.
Et quand tu parles de découle de, c'est-à-dire des gens qui t'ont été référés à toi,
exact,
par des clients qui étaient
voilà,
existants.
Voilà, des clients existants.
Donc, je voudrais passer un petit moment pour décrire un peu ton travail sur Nomad Digital. Et j'ai mentionné au début d'épisode que tu avais été présent dès le début de Nomad Digital et tu avais été très impliqué dans la conception de l'émission, les musiques, l'habillage musical, etc. Il faut dire que c'est une émission qu'on pourrait pas faire sans toi. Pour décrire un petit peu à quoi ça ressemble de notre côté, du côté de Paul et de moi, c'est-à-dire qu'on va ensemble préparer un épisode, on va l'enregistrer, on enregistre chacun notre piste son, et ensuite on va mettre nos épisodes dans un dossier Google Drive qui sont ensuite automatiquement synchronisés, voilà, donc dans le cloud, et toi tu peux ensuite récupérer les fichiers. Et derrière, c'est toi qui vas t'occuper de récupérer les fichiers, de synchroniser, de faire tout le travail sur l'audio. Beaucoup de gens nous complimentent sur la qualité son du podcast, sur la qualité de la production. Et ça, c'est quelque chose dont nous, on ne s'occupe pas du tout. C'est entièrement toi qui t'occupes de toute cette partie. Pour les auditeurs qui nous écoutent de façon régulière, vous savez qu'avec Paul, on a souvent cette question de comment être productif, comment optimiser son temps, comment déléguer. Et c'est clair que là, on a un système avec toi, une relation avec toi qui nous permet de gagner énormément de temps sur cette partie et d'avoir une qualité son finale qui est excellente. Enfin, je pense que parmi les podcasts indépendamment produits en France, et on a parmi les meilleures qualités. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable quand tu vois, quand tu penses que ni Paul ni moi ne sont des gens qui sont à l'origine experts de l'audio. Donc on a juste des micros que tu nous as d'ailleurs conseillé, on parle dedans et puis ensuite c'est toi qui t'occupes de toute la partie montage. Est-ce que tu peux m'expliquer relativement rapidement, disons dans des termes qui sont pas trop techniques, quel est le processus pour toi? Donc moi j'ai décrit un peu une boîte noire, c'est-à-dire à partir du moment où nous on te file les fichiers, on te fait confiance pour faire tout le montage. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo en quoi consiste le process?
Alors en fait le process il commence par la mise en place du process d'enregistrement, à savoir donc quand je commence à travailler avec des clients, si le besoin se fait sentir, et c'est très très souvent le cas, parce que finalement les producteurs de podcasts sont pas des animateurs radio, sont encore moins des techniciens son, c'est pas chacun son métier, c'est des gens qui écrivent et qui disent leur contenu. Donc l'idée c'est déjà de mettre en place un process d'enregistrement simple, abordable par tous, avec un investissement très très, enfin après chacun voit, hein, mais on peut le faire avec un investissement très raisonnable, hein, à savoir mettre une cinquantaine d'euros dans un micro, la plupart du temps on peut déjà commencer à travailler sérieusement. Mais par contre l'idée c'est que cette première étape elle est très importante, parce qu'à partir du moment où on ne le fait pas correctement, moi je suis ingénieur du son, je suis pas magicien, si l'enregistrement il n'a pas été fait dans de bonnes conditions, on n'obtiendra pas de bons résultats, tout simplement, quoi.
Donc sur ce point-là, je vois au moins deux choses sur lesquelles tu nous as pas mal coaché, que ce soit Paul ou moi. C'est la partie matérielle. Il me semble que c'est toi qui m'as fait acheter un filtre pop. Parce qu'au départ, je n'utilisais pas de filtre pop et donc j'avais un gros problème. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, le filtre pop sert essentiellement à éviter d'avoir un effet de saturation sur certaines voyelles, en particulier le P et le B, qui vont faire un son très désagréable au micro si vous parlez proche de votre micro sans filtre pop. Et comme je n'avais pas de filtre pop, j'avais aussi pris cette mauvaise habitude d'enregistrer extrêmement loin de mon micro. Et je ne m'apercevais pas que c'était un problème. Ce que j'avais, c'est que j'avais un son au final qui était très faible, et ce que je veux c'est que je montais les volumes au maximum pour compenser ça. Ce qui est d'ailleurs une erreur, il me semble que Paul a répliqué sur les premiers épisodes de Nomad Digital où il parlait loin, et quelque chose qui je pense est assez commun. Et moi ça paraît débile, hein, mais moi j'ai enregistré au moins une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'épisodes sur Séduction Académie comme ça, et je m'en rendais pas compte parce que je me rendais pas compte de ce à quoi c'était sens, quel était le son auquel j'aurais dû m'attendre. Et ça c'est toi qui m'as remis les pendules à l'heure sur cet aspect là donc pour préciser concrètement en quoi consiste ce système de production.
Exactement, donc un micro correct, un filtre anti-pop et parler à bonne distance. Hein. C'est pas, y a rien de plus compliqué que ça. Donc ça s'apprend en 10 minutes. Et donc à partir de là, s'ensuit le process que tu as décrit. Hein. Donc le podcasteur écrit, enregistre, envoie ses fichiers donc sur la plateforme d'échange de son choix, ça va Google Drive ou Dropbox. En général, hein, ça s'arrête à ces deux-là. Et de là, en fait, je construis l'épisode donc avec son enregistrement et je colle les intros, outros. S'il le souhaite, même lui mettre en ligne, lui poster ses épisodes, à savoir qu'en fait, le podcasteur n'a juste qu'à se soucier de l'écriture et de l'enregistrement. Pour le reste, en fait, c'est moi. Donc moi, je m'occupe de toute cette partie-là, quoi.
Donc essentiellement, tu peux te charger de toute la partie post-prod, en particulier quelque chose que j'ai commencé moi à faire par moi-même, ce qui était absolument débile en y repensant aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de monter l'épisode moi-même, parce que c'est un métier de travailler sur du son, C'est-à-dire que quand je le faisais moi-même, je faisais n'importe quoi. J'ai parlé tout à l'heure de monter les volumes parce que c'était pas assez fort. Mais si vous réécoutez les premiers épisodes de Séduction Academy, je comprenais pas comment couper les hésitations et les pauses. Donc je coupais absolument tout. Donc ça faisait un épisode où il y avait aucune pause, aucun blanc, aucune respiration. Et où t'avais l'impression que je parlais à 2000 à l'heure et que j'étais complètement. Tu sais, que je venais sniffer 4 lignes de coke et que brrr, le mec il pouvait plus s'arrêter et qu'il bouge dans tous les sens.
Oui, il y avait un sacré débit en plus.
Ouais. Parce que tout simplement, je savais pas ce que je faisais et c'est pas quelque chose que j'avais vocation, si tu veux, à passer le temps et l'effort important qui est nécessaire pour comprendre cette compétence et atteindre la bonne qualité son et atteindre les bons équilibrages, etc. Et encore, j'étais tout seul. Si on avait été deux à enregistrer ça, je pense que on s'en serait jamais sorti et on aurait jamais dépassé l'épisode 3.
Non, mais c'est normal. C'est pas des choses qui vont venir comme ça intuitivement. C'est un petit peu...
En fait, ce que j'essaye de faire à l'instant, c'est vraiment d'encourager les auditeurs qui nous écoutent. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent sont nécessairement intéressés par le podcasting en tant que média et peuvent être potentiellement intéressés pour lancer, eux, leur propre podcast. Et je vous encouragerais vraiment à... contacter Gilles probablement, parce que Gilles, si, en tout cas dans la mesure où toi t'as encore du temps de gérer des clients, etc., moi je serais très partisan pour te renvoyer les gens, ou en tout cas voilà, n'essayez pas de faire ce genre de choses par vous-même. À mon avis, c'est une erreur qui prend beaucoup de temps et qui va vous donner un résultat inférieur. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. J'imagine que la meilleure façon pour les gens de rentrer en contact avec toi, c'est de se rendre sur le site Nomad Digital. On a un petit formulaire de contact et puis vous envoyez un petit mail. C'est moi qui vais le recevoir, mais je pourrais transférer à Gilles toutes vos demandes si vous avez un projet. Je pense que travailler avec toi diminue probablement le temps de production nécessaire de 50% ou 60% par rapport à ce que ça nous prendrait à le faire tout seul. Donc ça devient en fait relativement accessible de pouvoir lancer une émission, même une émission hebdomadaire comme l'a été Nomad Digital au début, sans y passer tellement de temps à partir du moment où on a un processus derrière qui est solide. Et l'avantage de travailler avec toi, j'imagine maintenant, c'est que les processus, soit tu les connais déjà, donc on n'a pas besoin de te former sur comment monter un podcast. C'est plutôt toi qui vas former le podcasteur sur les éléments qui sont nécessaires.
Oui, je peux faire cet accompagnement-là aussi. Hein. C'est des choses d'ailleurs que je fais assez souvent. À beaucoup de reprises, en fait, j'ai fait... Bon, toi, c'était différent hein, parce que tu étais déjà expérimenté, mais à beaucoup de reprises, oui, j'ai pris par la main, entre guillemets, ouais, des podcasteurs qui débutaient et construit avec eux, en fait, construit leur show avec eux, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis pour revenir là-dessus aussi, il y a aussi cette idée-là sur laquelle je voulais revenir. En fait, au niveau du podcasting, on va dire que il y a deux catégories quand même assez distinctes, à savoir le podcasting à vocation entertainment, divertissement. Donc voilà, le podcasting sur ce que vous aimez, je sais pas moi comment ça s'appelle. La piscine, la mode, ou les dauphins, les chats, ou alors le podcasting qui s'inscrit dans un business et qui lui en fait est destiné à véhiculer votre image jusqu'à une clientèle potentielle. Et en fait, je vois aux États-Unis c'est assez différent, mais en France, je vois qu'il y a une grosse confusion à ce niveau-là. À savoir que ça n'est absolument pas la même approche et que énormément en fait de podcasteurs qui se servent donc du podcast pour communiquer, hein, donc voilà, pour véhiculer leur image, et ben véhiculent une image assez catastrophique en fait, quoi. À savoir que autant quelqu'un voilà donc qui fait un podcast sur voilà sur sa passion ou sur... Il sera pas réellement jugé là-dessus. Il n'est pas censé présenter un minimum de compétences, un minimum de professionnalisme. Donc, on n'écoute pas. Par contre, dans le cadre d'un podcast, voilà, qui est censé véhiculer une image, là, c'est très différent. À partir du moment où il y a des chances que ce soit le premier contact avec des prospects potentiels, avec une clientèle potentielle, le premier contact, il doit inspirer un minimum confiance sur la compétence générale de l'individu. Et si le son, il est tout dégueulasse, si en gros, si vous prétendez pouvoir aider donc des gens, par exemple, on va prendre l'exemple parce que ça c'est assez souvent le cas, de gens qui utilisent le podcast pour vendre des services marketing. En fait, faut voir que approcher des gens avec en reflétant l'image d'un gars qui enregistre des trucs dans sa chambre ou dans son grenier ou enfin bref avec un son complètement misérable et des moyens complètement misérables, c'est pas forcément la meilleure approche pour mettre quelqu'un en confiance, à savoir je peux vous aider à vous développer. Ça marche pas comme ça. À savoir que tiens, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas arrivé lui-même déjà à se développer, et comment peut-il m'aider, voilà ce genre de choses. Et voilà, c'est là aussi où je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice des volontaires, on va dire.
Donc l'idée serait qu'à partir du moment où tu comptes utiliser le podcasting, non pas comme un hobby, mais comme un outil marketing, ce qui est l'usage que moi j'en ai fait depuis longtemps, et ça a du sens d'investir dans une qualité de production qui soit professionnelle, et qui puisse avoir cet impact-là, sachant que pour avoir fait du podcast pendant longtemps et pour avoir fait de la vidéo, avec ton aide en tout cas, il est très abordable d'avoir un podcast qui a une excellente qualité son. Donc moi, j'utilise un micro ATR qui se trouve sur Amazon pour 80$ il me semble, un filtre pop qui coûte 10€. Et puis après, tu branches ça à ton ordinateur et tu enregistres avec Audacity, qui est un logiciel open source gratuit.
À partir du moment où on est sur PC, ne jamais utiliser Audacity sur Mac parce que le logiciel est buggé. Voilà.
D'accord. Bon à savoir. Donc voilà, avec ces outils relativement simples, accessibles, moi je suis assez réticent à acheter du matériel pour la simple raison qu'après il faut que je le transporte et j'ai juste un sac à dos, donc j'évite d'avoir trop de matériel. Et au final, c'est assez accessible d'avoir un podcast de bonne qualité. C'est plus facile d'avoir un podcast avec une excellente qualité que d'avoir des vidéos avec ce même niveau de qualité. Sur une vidéo, il va falloir que tu rajoutes là-dessus des trépieds et toute la question des éclairages, de ton décor. C'est tout d'un coup.
C'est pas très nomade de faire
des
vidéos. Il y en a qui s'en sont bien sortis quand même. Hein. On a pu le voir quelquefois.
Il y en a qui s'en sortent. Hein. Je pense que quelqu'un comme Antoine Blanche-Maison, par exemple, a un bon process et j'ai pas mal discuté avec lui là-dessus et j'ai pas mal un peu regardé. Ceci dit, ayant vu le derrière des coulisses chez Antoine, quand il est chez lui, il a quand même plus de matos qu'il n'est pas en mesure de pouvoir transporter avec lui. Donc il a quand même un niveau de confort de production quand il est chez lui, je pense, qui est supérieur à ce qu'il peut avoir en étant sur la route. Voilà. Un autre, je pense, c'est Casey Neistat qui a fait des vlogs pendant très longtemps quotidien. Et qui avait cette capacité à filmer un petit peu n'importe où avec trois bouts de ficelle. Sur cette petite dérive assez sympathique, je pense qu'on approche de la fin de cet épisode. Gilles, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose avec lequel tu voudrais conclure ?
Mot de la fin, je te remercie de m'avoir invité, tout simplement. Je crois que c'est un bon mot de la fin.
Effectivement, je te remercie d'avoir été avec nous. Ça fait un moment qu'on discutait de faire cet épisode ensemble parce qu'on savait que tu avais pas mal de choses à nous dire sur la Talente. T'as vraiment une perspective qui est assez unique. C'est assez drôle de pouvoir t'avoir de ce côté-là du micro parce que t'as toujours été une figure derrière les coulisses sur le podcast Nomad Digital. Ce que je voudrais faire, c'est on a fait la petite page de pub à l'instant. Je pense que moi, je t'ai déjà envoyé beaucoup de gens de mon réseau, des gens qui me demandent de l'aide sur la partie podcast. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encourager les auditeurs du podcast Nomad Digital qui pensent à lancer un podcast ou qui ont eux-mêmes un podcast. Si vous voulez de l'aide sur sur la partie production sonore, gagner du temps, améliorer votre qualité de production, faites ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire rendez-vous sur le site Nomad Digital, utilisez le formulaire de contact, et puis moi je m'occuperai de transférer votre mail et puis de vous mettre en contact avec Gilles, si vous avez des besoins là-dessus. Je vous encourage très fortement à le faire. Sur ce, Gilles, on finit cet épisode et c'est la fin de cette interview. Et c'est là qu'on se quitte. Bien sûr, ceci est l'avant-dernier épisode de Nomad Digital. On aura un ultime épisode, l'épisode 50, The End, où bien sûr Paul reviendra et on parlera du podcast, du parcours, de la fin du podcast. Et vous retrouverez ça, bien sûr, comme toujours, sur le site web, nomadedigitalpodcast.com. Je vous avoue que je galère à fond sur mon plan après ne pas avoir enregistré l'émission pendant aussi longtemps. Je me souviens même plus comment ça fonctionne. Mais bien sûr, ce qu'il faut dire maintenant, c'est d'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez laisser votre avis sur iTunes. Même si le podcast se termine, eh bien, il va encore continuer à vivre. Il va encore continuer à toucher de nouvelles personnes. Donc, n'hésitez pas à recommander le podcast Nomad Digital à vos amis et puis à laisser un avis sur iTunes. C'est une de vos dernières opportunités de le faire. D'ici là, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui m'a beaucoup intéressé à faire, où j'en ai découvert beaucoup sur Gilles, quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Mais il y avait plein de choses sur sa vie et sur son parcours que je ne connaissais pas encore. Et puis, je vous dis à bientôt pour le tout dernier épisode de Nomad Digital. Merci à tous.